m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour deux heures avec ce soir trois voix subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Yves-Marie Sevilla, journaliste politique à Boulevard Voltaire, bonsoir Yves-Marie.
Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Marc.
Damien Chalamel, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle et le meilleur client de cette émission. Bonsoir Damien.
Oui, bonsoir cher Marc, chers auditeurs.
Philippe Charlez, notre expert en énergie, notre plus grand expert et notre référence en tout. Bonsoir Philippe.
En tout, n'exagérons pas. Bonsoir Marc.
Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85. Est-ce qu'on peut nous appeler oui, on peut nous appeler cette semaine. Ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. Vous connaissez l'adresse par cœur. On essaiera de les lire à l'antenne, vos emails et vos messages, dans toute la mesure du possible. Vous êtes tous les bienvenus, comme d'habitude. Au programme aujourd'hui, un édito d'aide Ukraine, Macron, le fugitif. L'école publique est-elle un chantier prioritaire? Nous avons un grand invité, il est là, le député Rassemblement National, Roger Chudeau, ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Il se réserve pour tout à l'heure. En deuxième partie, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, le verrouillage macroniste était un peu voyant. Nous en parlerons entre nous et puis nous aurons notre petit clin d'œil culture habituel. Mais auparavant, nous faisons, vous le savez, chaque semaine un traditionnel tour de l'actualité et je demande à mes invités ce qui les a frappés cette semaine. Mais cette semaine, on va faire un peu différemment parce que ce qui nous a frappés, c'est ce drame absolument terrible du jeune Quentin qui a été sauvagement agressé au point qu'il est entre la vie et la mort au moment où nous nous parlons. C'était dans le cadre d'une manifestation des féministes de Némésis qui protestait contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon et ce garçon protégé faisait partie de la petite équipe qui était venue protéger les militantes de Némésis contre les assauts de l'extrême gauche ultra-violente. Eh bien, mal lui en a pris, si on peut dire, puisque ce garçon, qui était, je crois, quelqu'un de très sympathique, très doux, etc., risque peut-être de payer de sa vie cet acte de courage. Je voulais faire un petit tour de table et puis vous demander, c'est quand même un événement majeur depuis le temps qu'on dit qu'il faut régler ce problème des antifas ultra-violents et de l'extrême-gauche ultra-violente en France, il a fallu qu'on attende d'en arriver à ce drame absolument terrible. Peut-être Damien Chalamel, je commence par vous.
Oui, non, c'est très émouvant, ce garçon, il avait 23 ans. Alors, je ne vais pas raconter ma vie à mes auditeurs, mais mes filles, elles ont 23 ans, donc elles auraient pu être dans le collectif Némésis et protéger un des leurs, donc j'avais envie de dire, ben voilà, c'est un des nôtres, donc qui vient s'ajouter à une longue litanie. Alors, quand ce ne sont pas celles en particulier qui meurent sous les coups d'une immigration contrôlée massive, eh bien, nous avons les victimes de cette extrême gauche. Il y a quelques années, un ami de Radio Courtoisie, notre ami Thierry Bouclier, écrivait un excellent ouvrage qui s'appelle « La gauche ou le monopole de la violence » de 1789 à nos jours. Eh bien, on est en plein dedans, et j'ajoute, alors moi je ne suis pas journaliste, donc je ne suis pas tenu à la prudence qui vous est propre, mais que selon les témoignages qui ont, semble-t-il, été recueillis, on a aperçu dans la troupe de ces agresseurs un attaché parlementaire de cette petite frappe, qui est M. Raphaël Arnaud, député La France Insoumise, Fichier S. Alors,
l'information n'est pas confirmée pour l'instant, on ne sait pas encore très bien.
Je ne donnerai pas son nom, puisque son nom, il est facile à trouver, même sa photographie de cet assistant parlementaire. En toute hypothèse, ces gens-là, ces Antifa, ils sont parfaitement identifiés, ils sont parfaitement connus. Et d'ailleurs, il me semble que la procédure de dissolution de la jeune garde est en cours. Elle n'a pas encore été prononcée.
Pas confirmée par le Conseil d'État, en tout cas, exactement. Avec le recours. Ouais, mais actuellement, elle est dissoute.
Mais elle est dissoute, mais en définitive, c'est toujours le Conseil d'État qui tranche. Il y a un dialogue dans un premier temps avec la Direction des libertés publiques du ministère de l'Intérieur qui s'instaure. Et après, bien évidemment... les intéressés font appel.
La jeune garde, ce sont les Antifa, hein, les antifascistes de Lyon, qui ont été fondés.
Ils ne sont pas qu'à Lyon.
Voilà, ils ne sont pas qu'à Lyon, vous avez raison, c'est là qu'ils sont nés, en tout cas, c'est là qu'ils ont été créés par quelqu'un qui est aujourd'hui député LFI et que vous connaissez, Yves-Marie Sevilla.
Oui, absolument. Je voudrais effectivement...
Donc, qui s'appelle Raphaël Arnaud.
Qui s'appelle Raphaël Arnaud, qui aujourd'hui est député de Vaucluse. Préciser, effectivement, auprès de nos auditeurs, peut-être qu'ils ne seraient pas bien au courant, mais le jeune homme dont nous parlons, ce fameux Quentin, qui est un jeune catholique, militant de la région lyonnaise, de Lyon, est vraiment en état de mort cérébrale aujourd'hui, hein, entre la vie et la mort, donc on est véritablement...
Au moment où nous parlons, hein, parce que l'émission sera rediffusée. Donc,
Absolument, aujourd'hui, vendredi, en fin d'après-midi. Donc on est vraiment dans une situation qui va être incroyable et qui sera un événement vraisemblablement politique dans les jours et semaines à venir majeur, parce qu'on aurait... potentiellement, voilà, un jeune homme agressé extrêmement violemment et avec des conséquences pour sa vie qui pourraient être irrémédiables. Sachant évidemment qu'on peut dans ces cas-là toujours comparer, c'est-à-dire que l'extrême gauche passe son temps à justifier la violence en protestant contre l'extrême droite, et c'est toujours la même chose si on compare. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on avait effectivement un militant d'extrême gauche qui avait été comme ça sauvagement battu, poursuivi, lynché au sol par des militants de droite du camp national parce qu'ils seraient venus protester contre et on en voit régulièrement la signature du livre d'Éric Zemmour ou n'importe quelle réunion publique d'un député Rassemblement National, je parle sous le couvert du député Chudeau qui est avec nous. Donc c'est absolument effrayant, ouais. C'est un événement politique majeur.
On va lui donner la parole exceptionnellement, mais tout de suite. Mais d'abord, Philippe Charlez.
Oui. Alors, moi je l'apprends, donc je ne le savais pas, donc vous me l'apprenez. Donc d'abord, je voudrais donner tout mon soutien à Alice Cordier, Anaïs Maréchal, que je connais bien. Anaïs est la belle-sœur de Marion, et elle fait partie de l'équipe de Némésis. Alors je dirais que quelque part, c'est d'un côté terrifiant et désolant, mais c'est pas très surprenant, parce que finalement, les antifas ont tous les codes, je vais dire, entre guillemets, du stalinisme, hein, donc c'est-à-dire la violence... dans ce qu'il y a de plus abject, la non-acceptation du débat, la non-acceptation de l'autre. Donc, c'est-à-dire que globalement, comme l'extrême gauche, ils considèrent détenir la vérité à eux tout seuls. Et forcément, quand on considère qu'on détient la vérité à soi-même et tout seul, on ne peut être que violent contre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc voilà, ça montre un peu, je vais dire, ce qui pourrait se passer si la France insoumise arrivait au pouvoir.
Ouais, absolument. Alors non, ce que je voulais dire, moi, c'est que, juste avant de passer la parole au député Chudeau, c'est que ce garçon, qui était un jeune converti, j'ai joint un de ses colocataires à Lyon, qui me dit tout ce que je peux vous dire, parce que autour, on essaye de pas trop diffuser, tout ce que je peux vous dire, me dit-il, c'est que Quentin était le plus pieux, le plus doux et le plus généreux mec, dit-il, que je connaissais. Voilà, donc on est très très loin de l'image que les antifas vont sans doute, et l'extrême gauche vont sans doute essayer de donner, c'est-à-dire une espèce de nervi d'extrême droite avec le front bas et des gros muscles et qui tapent sur tout ce qui bouge. On n'est pas du tout sur ce profil-là.
En tout cas, on pense beaucoup à lui.
Et ça, c'est certain. Moi, je trouve ça très émouvant après tous les grammes que nous avons connus. On repense à la petite Lola. C'est autre chose parce que là, c'est pas l'immigration, hein, c'est l'extrême gauche. Mais on a quand même l'impression de vivre dans un enfer ensauvagé. Monsieur le député Chudeau, vous êtes avec nous. Vous n'êtes pas venu pour parler de ça parce que, évidemment, on ne le savait pas quand on vous avait invité. Mais comment, avec quel œil est-ce que vous regardez ça, vous qui avez l'expérience de l'éducation nationale, de l'enseignement et des jeunes, donc?
C'est bien triste de devoir commencer votre émission par cela. Je voudrais commencer par adresser mon soutien, ma sympathie, mon amitié à Quentin, à sa famille, à ses amis, à ses proches. Mais vous savez, d'une certaine manière, je ne suis pas surpris par ce que nous apprenons aujourd'hui, parce que cela fait des années, et je le vis tous les jours, comme tous les autres députés d'ailleurs à l'Assemblée nationale, que l'extrême-gauche hystérise le débat public. N'est-ce pas? Tous les jours, on se fait traiter dans l'hémicycle de fascistes, de nazis, de SS, enfin bon, bref. Et l'ultra-gauche, pardon, qui est le bras armé, c'est le cas de le dire, de l'extrême-gauche, passe, elle, à l'acte. Et là, manifestement, l'ultra-gauche a frappé. Elle a frappé manifestement ce garçon tellement violemment que sa vie est en danger, qu'il est entre la vie et la mort. Mmh. Et d'une certaine manière, ceci résulte d'un processus général d'hystérisation du débat public. N'est-ce pas? Quand vous désignez l'adversaire comme un fasciste, vous vous prenez pour un résistant, pour un antifasciste, qui est parfaitement grotesque. Parce que les fascistes, comme vous le disiez, monsieur, c'est eux.
Bah, évidemment.
Parce qu'ils cochent toutes les cases du fascisme. Antiparlementarisme, violence et totalitarisme.
Le nazisme n'est qu'un avorton du stalinisme, en fait. Hein, il faut le savoir.
Yves-Marie Sévillan, merci monsieur le député. Yves-Marie Sévillan, l'extrême gauche répète et hurle dans toutes ses manifestations, l'extrême droite tue. Ils vont pouvoir continuer ?
Écoutez, c'est bien simple, justement. J'ai fait rapidement un petit tour en essayant de repérer quelques éléments concrets de cette hypocrisie invraisemblable de l'extrême-gauche. Raphaël Arnaud, donc député de Vaucluse, qui avant d'être élu député, était donc un militant actif de la Jeune Garde, évoquait quand même, a eu le toupet de dire « Vous ne verrez jamais un militant de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence. » Là, vraisemblablement, donc cet événement est arrivé hier soir, il y aurait des liens entre la Jeune Garde et cette agression extrêmement violente. Ensuite, vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui en 2022 disait « Les insoumis sont en train de prendre des mesures de contact avec des groupements et associations antifascistes pour que, ensemble, on puisse mettre au point nos façons de répondre. » C'est-à-dire qu'en fait, la France insoumise, l'extrême gauche, a, comme l'a dit monsieur le député, incité des associations à se préparer à un combat, mais qui du coup n'est pas un combat idéologique. C'est-à-dire qu'en démocratie, vous êtes en accord ou non avec les idées du camp national, avec les idées du bloc central, vous débattez, mais enfin à aucun moment vous vous tabassez sauvagement dans la rue au point de peut-être ôter la vie de quelqu'un.
Les codes du totalitarisme ne sont pas ceux-là. Les codes du totalitarisme sont ceux de la violence et de l'exclusion de tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Donc je pense que essayer de relativiser leurs actes et leurs positions ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que la violence est complètement inscrite dans l'ADN de l'extrême gauche par définition.
Oui, il va falloir le démontrer.
Comment ?
Là, avec des paroles pareilles, et nous pouvons le démontrer. Il va falloir le démontrer parce que cet événement est un scandale.
Il n'y a pas besoin de le démontrer.
J'ajoute plus Raphaël Arnaud, donc, qui est fiché S,
hein,
qui est donc le collègue de notre invité. a déjà été condamné. Hein. En février 2022, il a renoncé à faire appel très récemment. Sa condamnation est définitive pour violence volontaire en réunion. Parce qu'il y a un mélange à la fois dans l'impudence, dans l'attitude de ce genre de personne, que j'appelle de petite frappe, hein, et la lâcheté, parce que c'est toujours bien évidemment à 10 contre 1 que ces choses-là se passent.
Et si possible, contre des filles.
Et également, effectivement, contre les femmes, oui, tout à fait.
Je crois que c'est Raphaël Arnaud hein, qui avait... Je me demande s'il n'avait pas lancé un arrêt de mort contre Alice Cordier.
Des menaces.
C'est lui, hein.
Des menaces, en tout cas. Oui, oui, c'est certain.
Des menaces de mort.
Les femmes de. Les jeunes filles de Némésis font partie des cibles favorites.
Elles sont très courageuses.
C'est pour ça qu'elles s'étaient entourées de quelques jeunes pour les accompagner, pour les protéger, quoi.
Une phrase que le député Arnaud avait dite, mais qui depuis, il dément, l'aurait dit qu'il fallait mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, de ce genre de militante. Mais si vous le permettez, Marc, juste effectivement aussi une précision. Boulevard Voltaire sera à la pointe de ce combat, notamment contre la défense de l'extrême gauche et de même les propos médiatiques qui seront de dire que c'était à l'occasion d'une rixe et de violence entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et là j'ai sous les yeux effectivement un tweet donc sur les réseaux X de Jean-Michel Aulas, donc candidat à Lyon, qui est connu et qui réagit à cette affaire. Et alors, en l'occurrence, il rebondit à une information du média Lyon Capital, qui est un média local, et qui évoque Lyon 2. Un homme entre la vie et la mort en marge de violence entre l'extrême droite et des antifas. Et il va falloir le démontrer, mais les premiers éléments montrent bien qu'effectivement, les jeunes hommes de la sécurité qui assuraient la protection des militantes de Némésis se seraient fait poursuivre, et c'était à l'occasion d'une telle poursuite qu'il y aurait eu après, dans un coin de rue, une bataille croche-patte, et qu'après lynchage, une fois que ce jeune Quentin était au sol. Ouais. Donc il s'agit absolument pas de violence entre l'extrême droite et l'extrême gauche.
On va avoir une bataille médiatique redoutable pour désigner le coupable. Et toute la gauche va désigner évidemment l'extrême droite, les nervis, etc. On va avoir droit à tout un truc. Et évidemment, les faits paraissent, en tout cas pour tous les éléments qu'on a, très très éloignés de cette version. Philippe Charlaise.
Oui, ça, ouais. Mais ça dissuade aussi le citoyen ordinaire de finalement se positionner, parce qu'il va avoir peur quand il voit ça. Les antifas font peur.
Oui, bien
ça
sûr.
Ça fait peur aux citoyens ordinaires qui ne demande rien.
Enfin, j'espère quand même que le citoyen ordinaire se dira comment se fait-il que des nervis pareils soient autorisés et courent en liberté dans nos rues. Donc, ce sont quand même des meurtriers.
Le citoyen ordinaire, il a un grand levier, c'est le vote.
Absolument. Il va falloir qu'il s'en saisisse, et c'est pas le député Chudeau qui nous dira l'inverse. Voilà. Deux petites réactions à tout cela. Celle de Sarah Knafo, l'extrême gauche tue, pensée et prière pour Quentin. 20 ans tabassé par des antifas à Lyon et aujourd'hui entre la vie et la mort. Toutes mes pensées pour la victime et soutien au collectif Némésis. Donc Sarah Knafo, candidate Reconquête à Paris. Et puis le candidat RN-UDR à la mairie de Lyon, qui s'appelle Alexandre Dupalet, a annoncé qu'il suspendait sa campagne face à ce drame insoutenable. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cet terrible drame, mais je pense qu'on y reviendra sans doute la semaine prochaine. Un petit édito.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Dette Ukraine, Macron, le fugitif à Strasbourg, les élus européens, Rassemblement National et Reconquête ont voté cette semaine contre un nouveau prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Union européenne à l'Ukraine. La Macronie a profité de l'occasion pour attaquer le Rassemblement National sans faire dans la dentelle. Voter Bardella, c'est voter Poutine, a lancé le député macroniste, écologiste et européen Pascal Canfin, qu'on avait vu plus subtil, rarement, mais quand même. Avant le vote, Nathalie Loiseau, toujours délicatement macroniste, avait tiré dans le même sens. Si l'on avait besoin d'une preuve de plus que l'AFD, ou Reconquête sont au service des intérêts de la Russie, nous l'avons. Elle dénonçait la manœuvre dilatoire des petits télégraphistes du Kremlin. Ces courageux combattants de salon ont emporté le vote. Les Ukrainiens auront donc 90 milliards pour financer la terrible guerre, il faut le dire, qu'ils mènent en effet héroïquement et héroïquement seuls contre la Russie. Ceux qui sont contre ce prêt sont donc pro-russes, c'est simple, c'est basique et c'est faux. Car les griefs des opposants au prêt ne sont pas sans fondement. Chaque État, chaque peuple est mis à contribution sans son consentement, constate le chef de la délégation RN au Parlement européen, Jean-Paul Garot, dans une vidéo qu'il a postée sur X. Cet emprunt de 90 milliards, il est garanti par le budget européen qui compte sur les dommages de guerre de la Russie. Mais la Russie, on le sait, ne remboursera pas. C'est donc le contribuable européen qui paiera, et en tête les contribuables allemands et français, 16 milliards d'euros supplémentaires par an. Nos généreux européistes n'ont pas le moindre plan pour sortir de cette boucherie. Pire, l'Union européenne n'a pas exigé de préférence européenne dans les achats d'armes. Nos 90 milliards financeront donc les usines de canons de l'oncle Sam, qui a décidé de ne plus financer l'Ukraine. L'Europe devient un pigeon à l'échelle du monde. Question. Le drame de l'Ukraine, qui souffre le martyr seul face à l'agresseur russe et au redoutable général hiver, est-il vraiment le souci des européistes ? Ils veulent arriver au plus vite au modèle mondialiste, nous confie un élu européen le mois dernier. La crise ukrainienne n'est considérée par l'Union européenne et par Macron que comme un simple outil pour accélérer le calendrier européiste. Dans le même but, le chef de l'État français a une nouvelle idée, un emprunt de 1200 milliards d'euros par an. Bien 1200 milliards d'euros par an pour l'Europe, pour investir dans les technologies vertes et numériques, la défense et la sécurité. Les Français rembourseront leur part, environ 16 milliards d'euros. Macron a fait toute la campagne de 2017 face à Marine Le Pen sur le thème de la compétence et de la responsabilité économique. 9 ans plus tard, le forcené de l'Élysée pose méthodiquement ses charges explosives aux endroits stratégiques avant de quitter l'édifice. Ses idées ont un trait commun, elles sont toutes destructrices pour le pays. Voilà, ce surendettement compulsif, chers amis autour de la table, est-ce que c'est une maladie, hein, c'est une maladie, le surendettement compulsif, Philippe Charlez ? Est-ce que alors, Macron en est atteint, à votre avis ?
Ce qu'on peut dire, c'est dans ce que vous venez de dire, c'est un peu le syndrome de l'inversion du sens de la preuve. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu, si vous n'êtes pas d'extrême gauche, vous pouvez être que d'extrême droite. Donc, si vous n'êtes pas à 100% d'accord concernant l'Ukraine, c'est que vous êtes un
voilà, stipendié par les Russes et un admirateur sans fin de Poutine.
C'est déjà ce qu'on peut dire. Dès que vous émettez le moindre avis, par exemple, sur la corruption en Ukraine, qui est pourtant un fait largement établi, vous êtes d'office pro-Poutine. Moi, je tiens à dire que l'agression de l'Ukraine par la Russie est inacceptable et avérée, donc on ne discutera pas sur ce point-là, bien que historiquement on puisse discuter, mon cher ami Damien. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la question n'est pas fondamentalement d'aider ou pas l'Ukraine, c'est que ça a des limites et qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne pouvons pas, il y a certains choix à faire. L'Ukraine est un choix qui est important, mais il n'y a pas que celui-là.
Oui, et puis surtout, c'est un choix qui nécessite des moyens considérables, je ne suis pas sûr qu'on les ait. Yves-Marie Sévillard.
Oui, non, mais très rapidement, mais je rebondis sur lorsqu'on avait évoqué, Emmanuel Macron évoquait l'idée que des soldats français puissent éventuellement participer à ce conflit, ou lorsque
après la paix, quand même, après la signature de la paix, en casque bleu, si j'ai bien compris.
Il fut un temps où...
Lorsque le responsable des armées avait aussi eu des propos très offensifs sur les questions de conflit. On peut s'y opposer sans prendre parti dans un tel... Dans une telle affaire internationale, enfin, pour défendre la position de Jordan Bardella, en tout cas.
Damien Chalamel.
Oui, d'abord je tenais à dire qu'il est connu qu'il y a déjà des soldats français en Ukraine, des forces spéciales, qui sont là plus pour soutenir et savoir se servir de systèmes d'armes que nous leur livrons. Enfin, c'est quand même un fait établi.
Ouais. Mais ce ne sont pas des troupes au sol opérationnelles, quoi.
Elles ne sont pas sur la ligne de front.
Ouais.
Voilà, mais elles sont tout de même là. Non, mais je vois dans ce prêt une espèce effectivement de poursuite sans fin de ce parti de la guerre, hein, une guerre par procuration, parce que même si je n'ai pas la même analyse du conflit que mon ami Philippe Charlez et que probablement tous ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui, il n'en doit pas moins qu'on ne peut que déplorer que cette guerre entre Européens, de ces jeunes Européens qui meurent tous les jours... Et qu'on voyait les prémices d'une paix avec le refus des États-Unis d'abonder sans fin ce régime ukrainien. Alors, je ne sais pas où on est de ce point de vue-là, la politique américaine, mais ce que je trouve désolant, c'est qu'on a tout de suite vu les européistes se lever comme un seul homme pour venir nous dire et que jusqu'au dernier des Ukrainiens, eux, ils continueront à abonder les Ukrainiens pour cette guerre sans fin continue, quoi.
Ah, c'est quelque chose d'extrêmement choquant.
C'est très choquant. Je veux dire, le moindre politique responsable devrait avoir à cœur de mettre un terme, de faire tout pour qu'il soit mis fin à cette guerre. Hein.
Roger Chudeau, vous êtes député du Rassemblement National, je le rappelle. Est-ce qu'on assiste à une fuite en avant éperdue d'Emmanuel Macron?
Oui, ça en a tout l'air.
Parce et de l'Europe, hein, parce que en l'occurrence, c'est l'Europe, mais soutenu par Macron.
Oui, ça en a tout l'air. Sur la question ukrainienne, la position du groupe est claire, du groupe RN est claire. Il y a un agresseur, un agressé, vous le rappeliez, et la France doit être du côté de l'agressé. Mais est-ce le meilleur service à rendre à l'Ukraine que de remettre encore de l'argent dans la machine à massacre, c'est-à-dire 90 milliards d'euros, qui d'ailleurs profiteront essentiellement, en effet, au complexe militaro-industriel américain? C'est prolonger le conflit, alors même, c'est ça qui est frappant, c'est le contretemps. C'est-à-dire que on arrive pratiquement là, aux prémices de la paix, manifestement, on va conclure dans quelques semaines, dans quelques mois, mais enfin, il y a des négociations de paix ouvertes entre les deux belligérants, et Mme von der Leyen et M. Macron continuent à souffler sur les braises, et en effet, comme vous le disiez, maître, se battront sans doute jusqu'au dernier Ukrainien. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, quant aux 16 milliards que la France devra tirer d'on ne sait où, d'ailleurs, pour contribuer à ce prêt, c'est un coup de canif plus que sérieux dans la souveraineté nationale. Jusqu'à présent, je regrette, mais 16 milliards, d'abord, on les a pas. Et ensuite, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Hein. Et là, elle n'a pas été consultée.
Absolument. Voilà, ce sera le mot de la fin. On va tourner cette page. Tout à l'heure, nous parlerons d'Amélie de Montchalin qui arrive à la Cour des comptes. Le verrouillage macroniste était un peu voyant, on a titré cela comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous aurons notre petit clin d'œil culture, mais auparavant, on ouvre notre grand dossier. L'école publique est-elle un chantier prioritaire avec notre grand invité, le député Rassemblement National, Roger Chudeau.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlèze, Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla. Mercredi 11 février en Seine-et-Marne, le père d'une lycéenne est interpellé après avoir frappé et menacé de décapitation un professeur. Le même jour, les enseignants de l'école élémentaire Olympe de Gouges à Marseille exercent leur droit de retrait. Ils ne supportent plus les violences des élèves à leur égard. Lundi 9 février, c'est un compte à rebours, vous voyez, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, affirme que 525 élèves ont été interceptés avec un couteau entre mars et décembre 2025. Le même lundi 9 février, 7 adolescents âgés de 14 à 15 ans entraînent un gamin de 14 ans dans une aire de jeu à Thionville pour le passer à tabac et lui voler ses effets personnel, vendredi 5 ou samedi 6 février, une enseignante est agressée par un élève en classe au collège de Pignan. L'élève, âgé d'une douzaine d'années, s'énerve après une remarque et met sa tête contre celle de sa professeure de français, âgée d'une cinquantaine d'années. Les cours sont suspendus. On pourrait continuer cette liste indéfiniment. Ces agressions ne sont qu'une partie des maux qui assaillent l'éducation nationale et ses fonctionnaires. Roger Chudeau, merci d'être venu. Vous êtes député Rassemblement National du Loir-et-Cher. Vous êtes aussi ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Vous avez été chef d'établissement, inspecteur d'académie et inspecteur général de l'éducation nationale. Vous me dites si je dis une bêtise. Non, pas jusque-là. On est très heureux de vous recevoir. Et avec vous, nous ouvrons donc ce soir le deuxième volet de nos émissions sur l'enseignement. Nous étions la semaine dernière avec Michel Valadier, que vous connaissez peut-être, pour évoquer les persécutions diligentées contre l'école privée. Et donc, nous nous penchons avec vous ce soir sur le cas douloureux de l'école publique. Première question simple. Que se passe-t-il avec nos enfants? Qui a failli, Roger Chudeau?
Vous avez bien raison, M. Baudrier, c'est un chantier. Tout est en chantier. Hein. Et à la triste énumération à laquelle vous vous êtes livré, il faudrait ajouter l'agression au couteau à Sanary, au collège public de Sanary, d'un professeur d'art plastique qui a été très grièvement blessé par un élève de 14 ans. Donc, ce serait une litanie épouvantable de continuer cette énumération.
C'est sur quelques jours seulement.
C'est sur quelques jours. Donc, si vous voulez, ce sont des révélateurs, des symptômes du malaise profond qui étreint désormais l'école publique. D'une certaine manière, rien ne va plus. On a l'impression d'un système qui se délite, qui se défait, qui se déconstruit ou qui a été déconstruit. Donc la déconstruction, c'est peut-être ça le maître mot de toute cette affaire. Elle est ancienne. Philippe de Villiers récemment parlait de la déconstruction de l'autorité parentale, magistrale et régalienne. Je pense qu'on y est. Là, on a au fond dans les événements que vous avez cités le résultat de cette déconstruction qui est très ancienne. Et qui maintenant arrive à un point de non-retour, une sorte d'acmé, quoi. Et donc, tout le monde s'affole, on parle d'ensauvagement, on prend des mesures, etc. Sauf que, ça y est, le mal est fait, quoi. Donc il va falloir, en tout cas nous avons ce projet, reconstruire l'école de la République, cesser au passage de tourmenter et de persécuter l'enseignement privé, ça c'est un autre sujet, mais enfin bon, la liberté d'enseignement, nous y tenons. Mais l'école publique est en danger, l'école publique va mal, l'école publique est désormais en risque, réellement.
Alors, on va en parler, on reviendra sur tous ces sujets, on va avoir le temps d'en parler tous les deux. Je fais un petit tour de table. Damien Chalamel avait une question pour vous.
Oui, mais avant de venir à cette émission, j'ai lu et téléchargé, alors il est assez ancien, le programme, en tous les cas l'ébauche de programme, J'aime l'école du Rassemblement National. Et pour tout vous dire, j'ai quand même été un peu, je suis resté sur ma faim.
Et j'ai trouvé que,
en fait, le Rassemblement National, j'aurais pu lire ça sur le site de LR. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que donc vous êtes vous-même ancien inspecteur de l'éducation nationale, vous avez une longue carrière d'enseignant, vous êtes agrégé d'allemand, je crois, c'est ça. Donc vous connaissez très bien le système de l'intérieur, à la fois comme enseignant et les rouages de la rue de Grenelle. Et en lisant votre programme, et je me disais, mais au fond, finalement, est-ce que les personnes qui l'ont rédigé, dont vous faites peut-être partie, n'ont pas anticipé sur les lourdeurs du Léviathan? Et alors là, on est saisi par un vertige. Parce qu'on se dit, mais finalement, les ministres passent, et peut-être demain ceux du Rassemblement National, et le Léviathan de l'éducation nationale reste, et on en vient à penser, mais finalement, est-ce que le mammouth de M. Allègre est-il réformable? Je m'interroge, mais là, alors, c'est le simple Damien Chalamel, père de famille, usager du service public de l'éducation nationale.
Est-ce que c'est réformable, Damien?
Est-il réformable? Ça fait longtemps qu'on se pose la question. Je me souviens, j'étais au cabinet de Gilles de Robien quand déjà cette question, hantait les couloirs. Faut-il réformer? Faut-il laisser le système aller à volo? Et laisser la main invisible du marché s'en emparer. Sûrement pas. Dans notre pays, l'éducation nationale a un rôle clé. Je veux dire, elle est le ciment social, le dernier ciment social. C'est la seule institution qui reçoive tous les enfants de France, quelle que soit leur nationalité et leurs conditions. Non, il faut absolument refonder, reconstruire une école de la République, une école de France, qui puisse faire face aux défis que nous avons, nous. Et vous avez raison de parler du programme de 2022. C'était d'une certaine manière une première ébauche, un premier tour de piste. Nous travaillons, votre serviteur y travaille aussi, bien sûr, à la rénovation, à l'actualisation du programme pour faire en 2027 des propositions qui iront bien au-delà de ce que nous avions fait en 2022. Maintenant, nous allons mettre les choses en perspective. Nous allons parler de l'éducation nationale, non pas comme d'un malade auquel il faudrait administrer quelques traitements, mais plutôt comme un système qui a un rôle capital à jouer pour notre avenir. Donc on va mettre les choses en perspective. Nous voulons faire un programme pour 2050-2060, dont les effets se poursuivront jusque-là. La vraie question, au fond, c'est à quoi doit servir l'école de la République? Elle doit servir à préparer le pays.
C'est la question de fond.
De fond, voilà. Donc on va partir des questions de fond. Le système éducatif doit préparer le pays à relever les défis de 2000, de maintenant, d'aujourd'hui et de demain. Pour ce faire, alors, tous les défis, parce que tous les indicateurs sont au rouge. L'économie est dans le rouge, industrie, agriculture, balance des paiements, budget, finances, hôpital, école. Enfin, je veux dire, le système est en train de s'effondrer. Je parle de notre pays, de la France. Et donc, pour redresser la France, il faut comment, il n'est de richesse que d'hommes. Il faut donc que nos citoyens, que nos concitoyens aient un niveau de formation, un niveau d'éducation qui les mette au niveau des défis de demain. Pour cela, il faut repenser complètement le système éducatif. Alors, sur l'état du système éducatif, tout le monde est à peu près d'accord. Gauche, droite, même l'extrême gauche, bon bref. Sauf que, d'abord, sur le constat, on est d'accord, mais sur l'analyse du constat, là, on diverge complètement. Pour nous, l'effondrement du système, il est ancien, il a été accéléré par le macronisme, bien sûr, mais il repose sur le fait que le principe de transmission a été démoli, déconstruit systématiquement, hein, pas de transmission verticale, on n'enseigne plus les élèves, on les laisse découvrir eux-mêmes leurs propres apprentissages et autres fadaises, bon. L'autorité, je le disais en citant Philippe de Villiers, a été détruite systématiquement. Hein, l'autorité magistrale, on se permet n'importe quoi avec les professeurs, sans sanction. Hein, et le corps enseignant est profondément déprimé, d'abord parce qu'il vit cette situation quotidiennement, et ensuite parce qu'il est mal considéré. Nos profs sont très mal payés. Ils sont payés deux fois moins que les Allemands, trois fois moins que les Luxembourgeois. Enfin, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais enfin, ça compte quand même, là.
Sans parler des Suisses.
Voilà, comme toujours. En tout cas, toujours est-il que les professeurs ont le sentiment d'être déconsidérés, d'être dévalués, d'être prolétarisés. Et là-dessus, il faut agir. Et on peut agir, et nous avons un programme pour agir.
Alors, on va y revenir. Mais Philippe Charlès, vous vouliez intervenir.
Je peux faire un peu de politique fiction. Oui. Allez, on est en 2027 et le Bardella ou Marine Le Pen élu, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain entrisme de gauche et d'extrême gauche au sein de l'Éducation nationale.
Yes.
Est-ce que vous êtes prêt à signer le lendemain de l'élection de Marine Le Pen et Jordan Bardella un décret remplaçant à 100% tous les directeurs d'académie et tous les présidents d'université?
Oula, alors
vous avez plus un cours le lendemain.
Franco, mais vous allez.
Je crois que si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas.
De toute façon, si vous voulez, de tels décrets sont en préparation. D'accord. Il y aura toute une série de décrets à prendre dans les 100 premiers jours. Et je vais vous dire, ils sont rédigés.
Hein. Les 10 premiers
jours.
Dans les 10 premiers jours,
ils vont. Donc, ils sont rédigés, ils sont prêts. On va en ajouter quelques autres en fonction de l'actualité.
Trump les a signés l'après-midi de son élection.
Oui, d'accord.
Bon, 10 jours, c'est bien. Hein, 100 jours aussi.
Donc, ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, effectivement, un système se pilote par l'encadrement supérieur. Et effectivement, les recteurs, comme l'avait fait Mitterrand. Mitterrand avait viré tous les recteurs, et la moitié des inspecteurs d'académie. Donc, nous, on ne vire personne. On va demander aux gens de se positionner par rapport au résultat des urnes,
à la politique
décidée par les Français, et ils ont le droit de se retirer. Ceux qui nous paraîtront inaptes à l'emploi seront remerciés et remplacés. Mais ça, n'ayez pas peur, on le fera. Non, mais ce qu'on fera surtout, c'est que rapidement, nous enverrons des signaux symboliques, n'est-ce pas, montrant que nous avons un programme, que ce programme sera mis en œuvre, et nous prendrons des mesures qui montreront que nous n'avons pas l'intention d'expédier les affaires courantes ni de laisser le mammouth vivre sa vie tranquille. Hein. Nous allons préparer un plan de reconstruction de l'école avec les personnels. S'agissant des personnels, un mot, moi je ne doute pas de la loyauté des agents de l'État. Je ne parle pas des très hauts fonctionnaires qui sont choisis en Conseil des ministres et nommés en Conseil des ministres. Je parle des professeurs, je parle des chefs d'établissement, je parle des inspecteurs. Bien sûr qu'il y a une sensibilité de gauche qui fut majoritaire.
Elle ne l'est plus.
Je pense qu'elle a que ceci. Mais peu importe, les gens pensent ce qu'ils veulent. Ils font leur travail. Ils sont officiers publics. Ils sont payés avec de l'argent public. Et moi, je ne doute pas qu'ils feront exactement ce que le gouvernement aura décidé faire.
Ça vous permettez d'émettre un certain doute.
Mais dans ce cas-là, Philippe, c'est la même chose dans tout le reste du pays.
C'est la même chose dans le reste.
Mais il va falloir aussi gouverner avec l'ensemble des Français.
Damien Chalamel et puis le ministre.
Toujours sur votre programme et votre analyse. Ce qui me frappe tout de même, c'est qu'il y a, on va dire, du temps de Jean-Marie Le Pen, la droite nationale, le Front National, partant du principe qu'effectivement... Le mammouth était décidément irréformable, était partisane du chèque scolaire. Vous voyez ? Alors, je vois que vous êtes. Et encore une fois, je ne veux pas en cause de. Mm-hmm. Bon, je simplement, je, je reste quand même malgré tout très très sceptique.
Bon,
très,
le chèque scolaire. C'est
oui,
ça.
Et j'ajoute un dernier point, c'est que dans votre fascicule d'ailleurs, très alors il ne s'intéresse qu'à l'école publique, mais vous ne dites rien de l'école privée.
C'est 2022 ça.
Ouais. C'est pour moi un sujet qui est quand même fondamental, quoi.
Oui. Non, mais sur l'école privée, j'ai rencontré le secrétaire général de l'enseignement catholique, le président de la FNOGEC. Nous sommes à leur côté parce qu'en ce moment, si vous voulez, ils sont quand même en but à une offensive concertée, organisée, systématique.
Voilà, nous en avons parlé le week-end
de la part de l'extrême gauche. Donc là, effectivement, les choses sont claires. Il y a un système qui se met en place contre eux. Donc nous sommes le seul groupe politique de l'Assemblée à avoir réagi à leur demande, à leur sollicitation, pour une raison simple. C'est que nous défendons les libertés publiques. Et la liberté de l'enseignement est une liberté constitutionnelle. Or, une liberté que l'on étouffe en ne versant pas 900 millions d'euros de frais d'externat, on étouffe la liberté sous nos yeux et nous ne resterons pas sans réagir. Bon. Mais donc, nous protégerons, quand nous arriverons au pouvoir, nous protégerons l'enseignement privé, qui est à 90%, 95% diocésain, et nous le laisserons se développer en fonction des besoins des Français. Un élève français sur deux a fait un séjour dans un établissement privé. Donc, les Français tiennent à leur école privée, ils tiennent à la liberté d'enseignement. Maintenant, c'est la nation qui a besoin d'un système éducatif, parce que je vous dis, il n'est de richesse que d'hommes. Si nous n'avons pas une main-d'œuvre, si nous n'avons pas des citoyens bien éduqués, bien instruits, bien insérés dans l'économie, qui ont un bon niveau de culture, nous allons dans le mur. Les pays qui sont émergents, ils sont plus qu'émergents, ils ont émergé depuis longtemps, et qui sont en train de nous tondre, ont fait un effort considérable dans le domaine éducatif, mais vraiment considérable. Nous devons faire pareil. Le patron de Safran, qui n'est pourtant pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire, récemment a fait une déclaration disant « Le niveau de mes opérateurs est tellement bas qu'on va dans le mur ». Il a parlé d'effondrement, il a tiré la sonnette d'alarme. Une note du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, donc c'est le gouvernement ça, et une note du Trésor, de la direction du Trésor, montre que le niveau baisse tellement dans nos entreprises que ça devient préoccupant. C'est-à-dire que les patrons se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ils n'ont pas de culture générale quand il s'agit de cadres. Ils ne maîtrisent pas les opérations. Ils écrivent mal le français. Ils font une faute à chaque mot. » Enfin bref. Je caricature. Je ne veux pas insulter les professeurs qui font tout ce qu'ils peuvent tous les jours pour que ça aille bien. Et il y a des endroits où ça va très bien. Merci. Simplement, globalement, on le voit dans les comparaisons internationales, nous nous effondrons. Le niveau s'effondre. La nation a besoin que les Français soit à l'aise avec leur propre culture, avec leur propre histoire, avec leur propre langue, et plus que ça, que les Français aient soif de science, soif d'humanité, soif d'intelligence collective. Tout ceci est en train de se détruire, et nous rétablirons ça. Ce sera le sens de notre programme.
Alors, je voulais on parle beaucoup de violence, on en a parlé là, dans les environs géographiques de Sciences Po, de cette affaire absolument dramatique. Je voulais qu'avec vous, monsieur le député Rassemblement National du Loir-et-Cher, Roger Chudeau, vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale, vous avez été chef d'établissement, inspecteur d'académie et inspecteur général de l'éducation nationale, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, je voulais qu'on parle de la violence à l'école et qu'on écoute notamment le ministre de l'éducation nationale, Édouard Geffray. C'était ce 9 février sur RTL.
On ne peut pas tout demander à l'école. Il y a un moment, si vous voulez, notre rôle, c'est d'instruire et puis c'est de protéger dans l'enceinte scolaire. Mais il faut aussi que tout le monde s'y mette et que par conséquent, et pardon d'appeler à ce sursaut collectif, mais je crois que c'est nécessaire, que les parents discutent avec leurs enfants de la violence en général. Parce que ce à quoi on assiste, c'est une explosion de l'hyperviolence, mais qui en fait trouve ses racines dans une espèce de violence banalisée. Les gamins maintenant s'insultent, etc., de manière assez facile. C'est pas acceptable. Et donc, il y a un moment où il faut que tout le monde, si je puis dire, un peu relève le gant. Et moi, je demande vraiment aux parents de parler avec leurs enfants, de leur dire qu'on part pas avec un couteau de manière générale, qu'on s'en prend pas aux gens de manière générale. Et qu'en toute état de cause, il y a un tabou absolu. Et un tabou absolu, c'est qu'on touche jamais un professeur.
Voilà, donc c'était le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, c'était ce 9 février sur RTL, vous voyez, il en appelle aux parents et il a accompagné le geste, la parole par un geste, qui est une lettre aux parents, qu'il a envoyée le 12 février. Alors on y trouve des tas de principes, l'école repose sur un ensemble de principes et de valeurs qui ne sont ni amendables ni négociables, nous nous mobilisons tous les jours pour faire réussir vos enfants, nous avons besoin de vous, etc., etc. J'ai toute la lettre sous les yeux. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui est relativement rare? Généralement, on avait l'impression que l'éducation nationale essayer de tenir les parents à distance plutôt. Là, il fait appel aux parents, c'est plutôt bien, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'il devient difficile de se passer des parents, puisqu'ils nous livrent des... Enfin, certains d'entre eux, hein, pas tous, nous livrent des enfants qui deviennent nos élèves, qui sont dans un état, comment dirais-je, de délabrement déjà à leur âge moral hein, et psychologique épouvantable. Donc, que le ministre écrive aux parents, c'est plutôt une bonne chose. Ce que je vois surtout, c'est que c'est presque aussi un aveu d'impuissance, c'est-à-dire que il dit, nous, on n'y arrive plus.
Ouais.
Alors, ressaisissez-vous, vous les parents, en amont.
C'est ce que ça veut dire.
Ouais, ouais. Voilà, c'est quand même triste à entendre. Et puis, je veux dire, ça va prendre un temps fou. Je veux dire, avant que les parents, il faut combien de temps? Deux générations? Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on gouverne le système. Hein, c'est pas possible. On gouverne le système en étant ferme sur un certain nombre de principes. Effectivement, le ministre l'a rappelé, on ne touche pas, il a dit au professeur, on ne touche à personne en fait. Il n'y a aucune violence autorisée, nulle part. Et nous avons dans notre programme une mesure que j'ai pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi, hein, qui est que les élèves violents, multirécidivistes, mettons trois fois, hein, seront ensuite exclus définitivement, quel que soit leur âge, définitivement des établissements, pas de l'enseignement, puisque l'enseignement est obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais ils seront retirés des établissements où ils ont sévi, parce qu'actuellement on se les passe. Quand il y en a un qui est sorti par un conseil de discipline, pardon, il est muté, si je puis dire, dans un autre collège ou un autre lycée où il peut recommencer. Et puis on se passe le mistigris. Là, ce sera, on vous met dans un dispositif qui existe déjà, mais qu'on va renforcer, qui s'appelle les ateliers relais, les classes relais, les internats relais, et les élèves finiront là leur scolarité obligatoire. Ils y passeront 2 ans s'il faut. Ils ne sont pas enfermés, hein, ce sont des établissements ouverts. Ce n'est pas une mesure de justice. Ils ne sont pas sous main de justice, mais en tout cas, ils n'iront plus perturber les établissements scolaires. Voilà, par exemple, une mesure concrète qui sera très dissuasive. Hein. Et puis, les allocations familiales qu'on peut supprimer pour les enfants violents ou absents, etc. Enfin, nous avons toute une série de mesures. Il faut montrer de l'autorité et ne pas se payer de mots. C'est bien d'écrire aux parents, mais M. Geffray agit ici, lui me permettre ce jeu de mots, un homme de lettres. Hein, il fait des lettres, il l'a écrit aux enseignants aussi. Il écrit aux parents. Bon, bah, très bien, c'est bien. Mais enfin, moi, je pense qu'un gouvernement, ça n'est pas ça. Un gouvernement, il prend des décisions en matière de sécurité dans les établissements scolaires. Ça fait des années que je demande au ministre, dans des QL, dans des questions au gouvernement, dans d'autres, dans des questions écrites, un plan global de sécurisation des établissements. Bon, ça n'existe pas. Enfin, il y a un plan, il y a un vague plan, mais on ne fait rien. Il faut des portiques dans les établissements, des portiques de détection de métaux, pardon, dans les établissements signalés comme étant dans un quartier violent. Il faut des boutons d'appel d'urgence pour les personnels. Il faut, des patrouilles régulières de police municipale ou de police nationale.
Mais c'est un escalade effrayant. Alors, on a entendu, hein, la liste est absolument dramatique, c'est comme ça toutes les semaines.
Oui, bien sûr, mais enfin...
Est-ce que c'est un problème à l'éducation nationale ou est-ce que c'est un problème d'éducation familiale ?
Alors, c'est forcément un problème d'éducation familiale, de transmission des valeurs élémentaires de toute société. Il est évident que des enfants qui n'ont pas été, éduqués correctement au respect de l'autre, au respect de son corps, de sa personne, même de sa parole, sont complètement hors contrôle. Ça, c'est d'ailleurs, c'est les enseignants du premier degré vous en parlent. C'est pas seulement au collège. Hein. Il y a des enseignants du premier degré, donc des instituteurs autrefois, des professeurs des écoles, qui nous disent ils sont intenables. On ne peut pas obtenir 5 minutes d'attention. Ils bougent sans arrêt. Ils sont, alors, après, on dit ils sont suractifs, ils sont machins, ils sont dyspraxiques. Après, on médicalise la chose, mais ça n'a rien de médical. C'est totalement éducatif.
Damien Chalamel.
Il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, mais je ne doute pas que nous partagions au moins une partie de mes convictions. C'est l'impact catastrophique également de l'immigration sur le système éducatif français. Il y a une note que j'ai imprimée avant de venir ici de Joachim Le Floch-Imad de l'Observatoire de l'immigration, paru en novembre 2025, qui met vraiment en exergue en particulier, alors on a parlé de la violence, je pense que c'est l'immigration massive et génère une violence endémique, hein, d'une part, et puis par ailleurs, ça se voit dans l'analyse des statistiques, notamment des tests internationaux. PISA et autres teams, c'est l'impact sur la baisse du niveau statistiquement entre autochtones et immigrés ou enfants d'immigrés. Et bientôt, on sera petits-fils d'immigrés.
Oui,
donc il y a vraiment une corrélation. Évidemment,
votre question, mon cher Damien.
C'est comment est-ce que vous articulez la politique du Rassemblement national de lutte contre l'immigration, la submersion migratoire, et cette future politique de redressement. Alors, de l'éducation nationale.
Vous avez parfaitement raison. Même M. Geffray s'en est rendu compte, 15% des établissements provoquent 80% des échecs et des problèmes. Ces 15%, on sait où ils sont. Ils sont majoritairement dans les QPV, les quartiers.
Ce chiffre est incroyable.
15% des établissements, 80% des enfants à problème.
Donc, ces établissements sont majoritairement dans des quartiers prioritaires de la ville, les QPV, en REP ou REP+, pour parler de jargon, réseau d'éducation prioritaire. Hein. Certains sont à l'extérieur parce que la carte des REP n'a pas été réformée depuis 11 ans, donc évidemment, il y en a qui sont dehors. Enfin bon, on voit bien de où se situe géographiquement et culturellement le problème. Et donc, là encore, le ministre a interrogé tout récemment, par moi, en question orale sans débat, au Palais Bourbon, me répond quand je lui dis « Pourquoi est-ce que vous ne réformez pas les REP ? Ça fait 11 ans que c'est demandé par tous. » Il me dit « Ah ben j'ai pas le temps, on fera ça en 2027. » Eh ben je lui réponds « Non, c'est pas vous qui le ferez, c'est nous. Attendez, nous on va réformer les REP et on va les réformer comme il faut. C'est-à-dire qu'on va leur donner une liberté telle, on créera des établissements autonomes d'enseignement avec une liberté considérable. Ils pourront agir sur tous les leviers, les programmes, les horaires, les cursus, la pédagogie, n'est-ce pas ? De manière, avec un objectif clair.
Ça, c'est très différent de ce qui existe, parce qu'aujourd'hui, c'est le moule à gaufre. Hein. Tout le monde est aligné.
Tout à fait. C'est tout à fait. Alors donc, c'est parce que nous voulons introduire cet élément, en nous inspirant d'ailleurs d'une expérience qui est bien connue, hein, c'est les charter schools, les écoles à contrat qu'on trouve dans le monde anglo-saxon et scandinave. Et ça marche très bien. Dans ces quartiers-là. Donc nous ferons ça, nous, très rapidement, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Bon. Et nous fixerons à ces établissements, qui auront des moyens renforcés, mais aussi une grande liberté d'action, des objectifs quantitatifs et qualitatifs clairs. Il faut absolument, par exemple, que tous les élèves qui passent de troisième en seconde, nous allons rétablir un examen de passage qui ne sera pas donné, croyez-moi, maîtrisent absolument les fondamentaux. Absolument les fondamentaux, et plus que ça, qui maîtrise l'histoire de France, la géographie de la France, les mathématiques et le français, qu'ils respectent les valeurs de la République, nous le ferons parce que c'est parfaitement atteignable comme objectif. Nous ne désespérons pas de l'éducation prioritaire, simplement, dans ses formes actuelles, elle est devenue inopérante.
Yves-Marie Sevilla.
Oui, monsieur le député, vous évoquiez la baisse de niveau. Dans quelle mesure, effectivement, le Rassemblement National peut et doit travailler sur le programme cette question du programme, est-ce que c'est le programme qui est en cause, ou est-ce que c'est le fait que professeurs, direction d'établissement ne sont pas suffisamment exigeants vis-à-vis de ce programme, que ce soit sur les notations, que ce soit sur les redoublements, et que ce soit sur effectivement les examens qui sont donnés avec cette proportion désormais qui est exorbitante d'élèves qui ont le baccalauréat.
Vous avez raison, c'est tout ça à la fois. L'échec à l'issue de l'école primaire et à l'issue du collège, l'échec est multifactoriel. Il y a la question, effectivement, de la manière de transmettre, c'est-à-dire de la pédagogie. Donc, la pédagogie, elle est enseignée aux jeunes professeurs par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui sont à l'université. Première chose, nous allons retirer à l'université la formation de nos maîtres, puisqu'on voit le résultat. Hein, l'OCDE indique qu'une bonne classe, c'est une classe qui a un bon maître. De bons résultats sont imputables directement à ce qu'on appelle l'effet maître. Bon, là, je suis désolé, mais manifestement, les résultats sont lamentables. 50% des élèves qui sortent de CM2 peinent à lire de manière fluide, ils lisent avec leurs doigts. En sixième, comment voulez-vous qu'ils apprennent quoi que ce soit, d'ailleurs. Et ça dure comme ça jusqu'en troisième, où il en reste encore à peu près 40%. Et ça dure jusqu'en seconde, hein, où là, aux journées défense et citoyenneté, il y a 25% de nos jeunes compatriotes de 17 ans qui ne peuvent pas lire correctement une petite annonce. Hein, bon. Donc, c'est un désastre. Donc, nous agirons, c'est multifactoriel, sur la formation des professeurs, initiale et continue. Nous agirons sur les rythmes d'enseignement. Les rythmes d'enseignement sont épuisants pour nos élèves. Il faut probablement regarder ça de près en concertation avec les collectivités. Bon. Nous agirons sur les programmes que nous allons revisiter, hein, non pas pour les alléger, mais pour les concentrer sur l'essentiel. Hein. Nous agirons surtout sur les examens. Nous allons créer un examen de passage en sixième, qui existait de mon temps. Désolé de passer pour un ringard, mais ça marchait très bien. Ça marchait très bien. C'est-à-dire que si on met un examen d'entrée de fin de CM2...
C'était le certificat d'études
Non, c'était un examen de passage en sixième. Ouais. Parce qu'à l'époque, la sixième était au lycée, donc c'est un examen spécial. Mais peu importe, beaucoup l'ont passé, de ma génération en tout cas. Hein, et donc, cet examen aura un effet systémique. C'est-à-dire que les professeurs des écoles voudront évidemment que leurs enfants réussissent, que leurs élèves, pardon, réussissent à cet examen. Mmh. Et ils mettront tout en mesure pour que ce soit le cas. C'est comme en terminale, quand on veut, les professeurs de terminale font tout pour que leurs élèves aient le bac, ça marche. Bon, nous ferons la même chose en troisième. Donc on va rehausser le niveau académique, rehausser le niveau comme ça, en agissant sur tous ces leviers-là.
Alors, nous sommes, je rappelle que nous sommes avec le député Rassemblement National, Roger Chudeau, qui est le grand spécialiste de l'école. On vous retrouve tout de suite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et, vous les remettre.
Et avec Philippe Charlez, Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla. Moi, j'avais deux points à aborder. Il y a plein de questions. D'abord, alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les questions. Allez, on commence par les questions. Philippe Charlez.
Alors moi, il y a un mot qui pour moi est vraiment le mot de la source de l'effondrement, c'est le mot égalitarisme. Donc l'égalitarisme, on sait que ça ne peut converger à terme que sur la pauvreté absolue, à la fois matérielle, intellectuelle et morale. Aujourd'hui, des valeurs comme le goût de l'effort, le dépassement de soi, c'est fini. Madame Rousseau, elle fait même l'éloge de la paresse, si je me souviens bien.
Oui.
Donc, est-ce que vous êtes prêts?
Ça nous fait bien rire, d'ailleurs.
Oui, moi, ça me fait pas rire.
Non, mais...
ça, non, ça me
mais
fait
faut,
pas
faut
rire.
Se détendre dans les
messages,
oui, bien
oui,
sûr.
Oui, il faut se détendre. Oui.
Entre deux colibets.
Voilà. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut affirmer haut et fort cela? Parce que c'est dur pour un politique, hein, puisqu'à partir du moment où vous érigez contre l'égalitarisme, vous érigez contre l'égalité. Alors, or, je vais rappeler que l'égalité, c'est l'égalité des droits, ça n'est absolument pas l'égalité matérielle ni l'égalité intellectuelle. Et d'ailleurs, on veut finalement même une égalité entre le professeur et les élèves. C'est bientôt les élèves qui vont apprendre au professeur. Donc, est-ce que vous êtes prêt à affirmer haut et fort que vous êtes totalement opposé à l'égalitarisme?
Et est-ce que cet égalitarisme pourrit l'éducation nationale?
C'est-à-dire que c'est une vision dévoyée de l'égalité, vous avez raison. Hein. L'égalité, vous êtes un principe d'abord, un principe républicain, pas seulement républicain.
C'est qui est l'égalité des droits.
Oui, oui, tout c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité des chances, bien sûr, et ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais la véritable égalité, c'est de permettre en fait à chacun, à chaque élève, de trouver sa propre voie d'excellence. Il y a en chaque élève,
bien sûr,
quelque chose à cultiver. N'est-ce pas? Et la fonction de l'école, c'est pas de tout étouffer sous une forme justement de couvercle où on servirait la même soupe tiède à tout le monde. La fonction de l'école, c'est de permettre à chaque élève d'aller le plus loin possible dans ses potentialités, ses capacités et ses désirs du moment que ça repose sur du travail et sur l'effort. Vous savez, je ne pense pas du tout que les enfants, les jeunes, n'aient pas le goût de l'effort et de la compétition. Il suffit de voir. Dans le sport, je veux dire, ils adorent ça, hein, ils adorent se mesurer. Ça signifie pas se mesurer, gagner une compétition, c'est pas écraser l'autre, au contraire.
C'est très ça.
Si elle est loyale et respecter son adversaire, bah, tous ceux qui ont fait du judo, enfin tous les sports, hein, c'est pareil. Donc je crois que de ce point de vue-là, rien n'est perdu. Hein. Simplement à l'école, pour des raisons, alors là pour le coup idéologique, une espèce de prêt-à-penser des boulgi-boulga de gauchistes sur le fait que la compétition c'est pas bien, il faut pas opposer les élèves uns les autres. On a tenté d'étouffer ça, mais ça ne marche pas, croyez-moi. Donc nous n'aurons pas beaucoup de mal, nous, à rétablir le goût de l'effort, d'autant plus qu'il y aura des récompenses. Hein. Vous passez en sixième, voilà. Vous passez en seconde. Vous obtenez votre baccalauréat, et pas 98%, hein. Vous obtenez un vrai baccalauréat qui servira effectivement à l'université. Comme ça, il n'y aura pas 50% d'échecs en première année de fac. Vous voyez, nous allons créer comme ça un escalier, l'ascenseur social, ce sera un escalier social, mais surtout un escalier académique qui permettra à chacun de se retrouver. Et puis, nous allons faire un très gros effort, je finis là-dessus, un très gros effort sur l'enseignement professionnel. La France a besoin de se réindustrialiser. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron, c'est le président de la République, hein, qui a au moins eu cette intuition. Ah, bon là, il faut peut-être qu'on arrête de désindustrialiser, puisque nos voisins, nos concurrents, nos adversaires de demain, nos ennemis peut-être, sont industrialisés et travaillent beaucoup. Nous devons
nous réindustrialiser. C'est pourtant ce qu'il a fait pendant 8 ans,
désindustrialiser. Il a fait en même temps une chose et son contraire, comme d'habitude. Mais ça, c'est de la politique, et bon, moi j'ai le droit. Mais vous aussi d'ailleurs. Enfin bon, pour réindustrialiser... Le Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, que nous avons reçu dans le cadre de la commission d'enquête de M. Loubet, dont le rapport est remarquable, nous disait, donc le Haut Commissaire nous disait, à l'horizon, pour gagner 2 points de PIB, actuellement on est à 10 points de PIB pour la production manufacturière.
Oui, 9,7.
Pour passer à 12 en 10 ans, Il faut embaucher, former, je veux dire, ex nihilo, 1 million d'opérateurs, 100 000 par an.
Oui, mais d'ailleurs, passer de 10 à 12, c'est 20% de production en plus.
Mais voilà. Et pour ça, il nous faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et je vous dis, 1 million d'opérateurs, du niveau opérateur jusqu'à l'ingénieur de conception ou de fabrication, c'est 100 000 par an. Il nous les faut absolument. Donc, dans le programme éducatif du RN, on va changer la vision qu'on peut avoir dans l'enseignement professionnel. Nous voulons avoir une jeunesse qui s'intéresse au travail industriel, au métier de l'industrie. Et du coup, après la troisième, l'orientation va être sérieusement changée. Actuellement, le nirvana de l'orientation post-troisième, c'est vous passez en seconde générale. En seconde générale, c'est-à-dire vers le lycée général et vers les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire vers le chômage. Bon, en partie, j'y vais fort, mais peu importe. Pas grave, je suis du RN. Bon, pardon.
On a peur.
Et donc, nous dirons, non, la voie d'excellence post-troisième, c'est l'industrie. C'est le lycée professionnel. C'est le lycée technologique. C'est le lycée technique. C'est le CFA. C'est là qu'il faut aller. Et nous allons, vous voyez, ça, c'est un travail de fond sur le travail de l'orientation. Et nous allons mettre ça dans notre programme.
Mais ça va prendre. Là aussi, ça prendra plusieurs générations.
Ça met du temps. Mais ce qu'il faut faire, nous voulons faire levier. Nous savons que 5 ans, c'est court. 5 ou 10 avec un peu de chance. Une mandature, c'est court. Mais nous ferons levier, nous prendrons des décisions qui s'imprimeront dans la durée. Mais elles seront prises à ce moment-là.
Damien Chalamel.
Oui, alors, si vous voulez mettre un examen d'entrée en 6e, est-ce à dire que vous voulez revenir sur le collège unique, la loi Abi?
Ah oui, bien sûr, complètement.
D'accord.
Le collège unique, il paraît. Ah oui, non, mais je vous remercie de me poser la question, parce que du coup, pour moi, c'est tellement évident, implicite, que j'aurais presque oublié d'en parler. Le collège unique, c'est fini. Nous ferons un collège évolutif, un collège souple, un collège agile. Donc, nous rétablirons les classes de 4e et 3e technologiques, sous une autre appellation, qui ont été supprimées par la gauche, pour des raisons purement idéologiques, alors qu'elles rendaient des services signalés. Elles permettaient à des enfants encore assez jeunes, qui ont une appétence pour les métiers de la main, et de l'esprit, parce que il faut pas opposer les deux, en tout cas pour les métiers manuels ou artisanaux ou industriels précisément, ça leur permettait de s'orienter plus tôt, d'être portés vers cette orientation qui n'avait rien d'une relégation. Nous rétablirons ça. Et puis, je vous disais, on va créer des établissements autonomes d'enseignement, d'abord sur une base expérimentale et du volontariat, puis en généralisant petit à petit. Et ces établissements n'ont absolument plus rien à voir avec le collège unique. Ce qui est unique, ce qui doit rester unique, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que nos élèves cessent d'être à moitié illettrés quand ils sortent du collège, et qu'ils aient une culture générale solide quand ils sortent du lycée. On en a besoin, la nation en a besoin, pas seulement l'économie, les patrons et tutti quanti. La nation a besoin de ça. Sans ça, on va dans le mur. Donc l'objectif, il est fixé par la représentation nationale, et il est mis en œuvre par le gouvernement, et ensuite, les formes que ça prend, que ça peut prendre, je veux dire, nous serons très souples là-dessus. Nous serons très très souples. C'est le principe de subsidiarité.
Alors, on va parler de deux épidémies qui posent de lourds problèmes à l'école. Ce sont d'abord l'épidémie des téléphones portables. On en parle beaucoup, j'aurais bien aimé que vous nous disiez un petit peu votre sentiment. Et puis, une autre épidémie qui est beaucoup plus dramatique, c'est celle des couteaux. On en parle tout de suite.